Elisabeth Sombard, vous êtes pianiste, vous êtes aussi fondatrice d'une fondation Résonance. Un de vos maîtres, un grand chef d'orchestre, Célie Bidaké, vous a dit un jour « Si tu veux être serviteur de la musique, il faut commencer par casser ton ego ».
C'est exact. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand on est un interprète, et d'ailleurs le mot interprétation était un mot absolument banni des cours de phénoménologie de la musique qu'il nous prodiguait. Il disait « il y a une obéissance supérieure aux lois qui régissent les phénomènes sonores en relation directe avec notre conscience ». Ça c'est disons la définition de la phénoménologie de la musique. Et paradoxalement, c'est pas nous qui ordonnons les sons, mais ce sont les sons qui ordonnent notre monde affectif. Cette idée était tellement nouvelle, parce que jusqu'alors, moi je croyais qu'on jouait parce qu'on sentait les choses d'une certaine manière, et que c'était suffisant. Et toute son approche, et toute l'approche de la phénoménologie de la musique, c'est de montrer qu'il y a dans notre manière d'interpréter, entre guillemets, un reflet direct de nos peurs, de nos limites, de notre grandeur aussi bien sûr, et surtout de ce qu'on appelle les névroses aujourd'hui, c'est un mot un peu fort, les doutes, les manques de confiance en soi, enfin toutes ces sortes de choses. Et par exemple, je me rappelle la première chose que je lui ai jouée, c'était un nocturne de Chopin, sur une note où il fallait vraiment donner tout le poids, tout son point culminant. Moi, je l'avais fait très introverti parce que je trouvais que c'était une manière de montrer ma sensibilité. Ça montrait surtout mon incapacité à aller directement vers les choses, de les donner d'une manière transparente, extrovertie, et que tout ce côté introverti que je croyais être un secret ou quelque chose d'intéressant l'était pas, et que la musique était toujours plus belle que tout ce qu'on peut vouloir y cacher de nous. En fait, ce que nous apprend la phénoménologie de la musique et cette phrase, ce qui est derrière cette phrase « casser l'ego », c'est que l'obéissance mène à la vraie liberté. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre quand on joue parce qu'on fait n'importe quoi ou parce qu'on fait ce qu'on sent. On est libre à partir du moment où on est vraiment au service d'une compréhension de la logique sensible, des relations, des phénomènes sonores, de tous les paramètres qu'il va falloir unifier pour pouvoir révéler le vrai message qui est derrière. Et ce paradoxe de la vraie liberté comme conséquence de l'obéissance, et l'obéissance c'était avant tout reconnaître qu'il y avait des lois supérieures qui n'étaient pas faites par nous, mais pour lesquels on devait se mettre au service, ça a été le grand choc, mais aussi le grand cadeau.
Alors quand vous dites se mettre au service, est-ce que cela rejoint aussi une phrase que vous avez citée de Maurice Zindel, s'agenouiller au cœur de l'écoute?
Oui, le mouvement de s'agenouiller est aussi une conséquence. C'est pas qu'on décide de se mettre à genoux. D'ailleurs, je pense que dans les grands moments de notre vie, on est tombé à genoux. De la même manière, quand on se met au piano, on va rejoindre ce point de la croix, ce point christique, qui est qu'on joue comme si ça dépendait que de nous, tout en sachant que ça dépend pas de nous. C'est dans cette simultanéité que nous devenons l'écoute. Vous voyez, je commence le premier son qui déjà, je l'ai entendu avant de commencer, et à partir de cette première note, qui est le premier système de référence le plus important dans une œuvre, la fin est déjà contenue dans ce point. Et il y a un renversement des valeurs telles qu'on les connaît, parce qu'en musique, une mesure plus une mesure, ça fait pas deux mesures, ça doit faire une mesure. Jusqu'à la fin, ça doit faire un. Et tout le travail de la phénoménologie de la musique et de la manière dont le corps et les gestes techniques vont restituer ça, comment trouver l'unité entre les deux choses, c'est ce qui permet, à un moment donné, de ne plus être seulement la personne qui fait, mais quelqu'un fait avec nous. Quelque chose écoute avec nous, en nous. C'est difficile à dire parce que c'est de l'ordre de l'expérience.
Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre de la présence, de cette présence de Dieu en nous?
Oui, parce que la présence de Dieu en nous, quand on joue de la musique, quand on interprète, on va quand même dire ce mot, cette présence, elle n'est pas sentie par nous, elle est sentie par ceux qui nous écoutent. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que moi je sens, même à ce niveau-là. Et j'ai tellement aimé quand Mère Teresa de Calcutta a dit à une de ses sœurs qui venait vers elle en lui disant « Je ne ressens plus rien, je suis dans le désert. Et puis d'ailleurs, j'en ai marre de tous ces lépreux, j'en ai marre de tout ça et j'y arrive plus. Moi, je suis pas comme vous », elle lui disait. Alors que personne ne savait à ce moment-là qu'elle-même était dans le noir et qu'elle y restait pendant 40 ans jusqu'à sa mort. Et ce que j'ai trouvé très très beau, c'est qu'elle a dit « à cette jeune sœur, elle lui a dit « faites comme si ». Et ce « faites comme si », il est très important à comprendre, parce que là aussi, c'est comme dans la musique. Je ne dois pas absolument être dans la maîtrise, me dire « je suis en train de moi donner ce que je suis, ma sensibilité ou je ne sais pas quoi ». À un moment donné, ça devient secondaire. Ça devient au-delà de nous-mêmes même. C'est un autre « moi » qui... à laisser la place à plus grand que nous. Parler de la présence, c'est toujours difficile, mais je crois que dès qu'on s'oublie, hein, comme disait Chilbida, oublions-nous, laissons-lui la place, vidons-nous de ce nous-mêmes qui veut absolument se dire, qui veut absolument se montrer, pour des bonnes raisons souvent, hein, simplement pour être aimé ou pour être reconnu, tout ça c'est bien normal. Mais le cadeau, si on arrive à se mettre derrière, c'est la promesse du Christ. Je vous rendrai au centuple. Vous savez, je me rappelle de cette expérience qui a changé ma vie. Mais je me rappelle d'une chose qui a été une évidence et qui a changé totalement, au sens d'une conversion, mon rapport au concert. Je faisais une tournée de concert dans les pays africains, j'ai envie de dire, parce que je partais du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, Cameroun, et je terminais en Zambie. Et j'étais assez fatiguée. Et j'ai un car allemand qui, heureusement, me sauve la vie... parce que sinon mon car russe pourrait quelquefois prendre le dessus. Mais heureusement, mon père m'a donné ce car allemand, qui fait que, par exemple, je n'aime pas du tout arriver en retard. Pour moi, c'est une chose très importante, le respect du temps de l'autre, mais aussi le respect du temps comme métaphore de Dieu. Et je vais donc le concert à 8 heures. Et à 8 heures, donc, évidemment, j'étais prête dans le hall de l'un de cet hôtel, et personne ne vient, et finalement un chauffeur. Il est arrivé à 9h moins le quart. Donc j'étais dans un état de stress que je n'ose même pas vous décrire. Et je lui ai dit, mais c'est affreux, vous êtes en retard. Et puis en plus, à cette époque-là, j'avais tellement peur, j'avais tellement le trac, il y avait encore un tel gap entre l'image que j'avais de moi, de nullité, d'incapacité, une espèce de complexe de l'imposteur, et puis d'un autre côté, ce que les gens vivaient dans mes concerts et ce qu'ils avaient comme image de moi. Ce gap était encore tellement immense à l'époque. Et donc, pour moi, d'arriver en retard, ça rajoutait encore énormément. Il m'a dit, mais c'est pas grave, ma petite mademoiselle. Il faut absolument que vous détendiez. Et je lui disais, mais je peux pas me détendre. Il m'a dit, écoutez, de toutes les façons, pour arriver jusqu'au concert, il nous faut une heure. Une heure? Je lui ai dit, mais on va arriver à 10h, mais il y aura plus personne. On sera presque 2 heures en retard. Il m'a dit, mais vous en faites pas. Il y aura quelqu'un qui est un conteur, qui va les faire attendre, qui va leur raconter des histoires. On est en Afrique ici. Et alors j'arrive dans un endroit au fin fond. Il y avait des quantités de voitures les unes sur les autres. Il y avait une espèce de hangar transformé en salle de concert. Et je traverse cette salle qui était vraiment très très pleine. Et j'essayais de voir tout au fond de la salle la scène. Et alors j'aperçois au fond la scène, mais je vois pas de piano sur la scène. Et je me dis, ma pauvre, là tu es vraiment fatiguée. Et tout à coup, tout en me faufilant dans la foule du public qui était vraiment très très pleine, je vois au fin fond de la scène un piano droit contre le mur. Il n'y avait même plus le couvercle vertical. Et il y avait une corde. Et là, cette expérience... Maintenant, je suis donc en train de marcher. Je sens à l'intérieur une espèce de désespoir. Et je dis au Seigneur, écoute, il vaut mieux que tu quittes la pièce pendant une heure. Et je me parlais comme ça intérieurement. Et là, alors là, c'est de l'ordre de l'expérience. Hein. C'est pas disable avec des mots. J'ai entendu profondément ça. Toi, tu joues. Moi, je touche les âmes. Et là, ça s'est inscrit dans mon cœur. Et là, une espèce de sensation de détente, de légèreté intérieure qui ne m'a plus jamais quittée. Je me suis dit, mais comme je suis bête, mais bien sûr, mais comment j'ai pu penser que c'était moi qui faisais tout? Je suis montée sur cette scène, détendue tout à coup. J'ai même eu le courage de demander à des personnes de m'aider à amener cette casserole au milieu pour que quand même ce soit pas tout au fond de la scène. J'ai commencé à jouer, je me rappelle, je commençais avec un impromptu de Schubert qui est une délicatesse et tout. Et là, tout à coup, je me suis dit, c'est vrai, au fond, le Seigneur est rentré dans Jérusalem sur un ânon, pas sur un cheval blanc. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin de demander un grand piano à queue? Et là, j'ai commencé. Alors, bien sûr, le piano n'était pas bien accordé. Bien sûr, il y avait une note qui sonnait pas. Bien sûr, il y avait pas mal de choses qui étaient vraiment, du point de vue purement matériel, rédhibitoires pour faire un beau concert. Et donc, je vais quand même jusqu'au bout du Schubert. Et sur le dernier accord, J'avais quand même préparé ma phrase, je me suis dit je vais me lever et je vais dire aux gens, vous voyez, c'est pas que j'ai pas voulu jouer, j'ai fait, mais vous êtes d'accord, c'est une casserole, je sais pas, faisons autre chose, allons au café, enfin, je sais pas, n'importe quoi d'autre. Et je me lève pour parler et les trois premiers rangs que je pouvais voir, tous les visages étaient baignés de larmes. Et plus jamais je me suis plainte d'un piano, de quoi que ce soit, parce que j'ai compris que même le piano est un instrument, que pas seulement nous, nous sommes les instruments. Mais l'instrument lui-même n'est pas le but, il est un moyen. C'est juste ce sentiment de dire, je donne, quoi que je donne, finalement c'est pas intéressant, c'est le Seigneur qui va faire avec ce que je donne. Et nous sommes des signes, et dans la musique on travaille avec des signes qui font allusion à quelque chose de bien plus éternel, comme nous d'ailleurs.